Grand Slam et l'Occident, c'est une série d'émissions proposées par Hut Chaps. Ce matin, cinquième et dernier volet, l'islam et la modernité avec Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique, et Fawzia Zuhari, écrivain et directeur de la revue Khalifa, création artistique et littéraire des femmes arabes. En introduisant la première émission de cette série consacrée à l'islam et l'Occident, j'avais rappelé l'évidente difficulté qu'il y a aujourd'hui à parler clairement de l'islam, ce terme renvoyant à la fois à une religion, à des sociétés et à une culture. En abordant maintenant le dernier de ces entretiens, voué à la période actuelle, il convient donc de s'interroger d'abord sur la nature de l'islam dont nous allons parler, Mohamed Harkoun.
Oui, assurément. De quel islam allons-nous parler, mais aussi de quelle modernité allons-nous parler? Ça n'est pas facile non plus. C'est un problème qui n'a cessé de me préoccuper depuis très longtemps, en relation avec d'autres intellectuels musulmans. La modernité donc pose des questions très importantes, non seulement pour l'Europe où elle est née, mais elle pose des questions très importantes et antérieures à toute autre questionnement, à mon avis, à tous ceux qui aujourd'hui entrent dans un espace de réflexion et de recherche. Je dis que avant de parler de l'islam, il faut parler d'abord de la modernité, parce que c'est la modernité qui nous fournit les instruments, les outils de la pensée nécessaires pour aborder un domaine de connaissance quelconque. La notion de modernité intellectuelle est née à partir du 15e, 16e siècle. Le geste de Luther, par exemple, est une protestation de la raison critique pour avoir le droit d'examen à l'égard de l'autorité à la fois spirituelle et intellectuelle, qui contrôlait tout l'espace intellectuel en Europe, à savoir l'autorité du magistère doctrinal catholique, et pour donner pour la première fois aux croyants chrétiens, et donc aux Européens, leur donner ce sentiment du sujet souverain, et qui exerce sa souveraineté par une intervention intellectuelle de la raison autonome. Autonome par rapport à toute donnée extérieure à elle. Or, jusque-là, la raison est pratiquée, ce qu'on appelle dans le calvinisme, le serf-arbitre. Serf, comme les serfs au Moyen-Âge, c'est au service des données révélées, au service de ce que Dieu a enseigné aux hommes. Alors, vous voyez, ça, c'est un geste que je rappelle, parce que il touche directement l'exercice de la raison à l'intérieur de l'islam. Parce que le problème se pose absolument de la même façon à l'intérieur de l'islam et de la pensée juive, bien sûr. Voilà pourquoi les juifs ont réagi comme ils l'ont fait vis-à-vis de Spinoza, par exemple, en tant que penseur, certes européen, mais juif en même temps.
Et pour l'islam?
Alors, pour l'islam, ils ont réagi déjà de la même façon que les juifs ont réagi vis-à-vis de Spinoza, vis-à-vis d'Averroès, qui a été mis en prison par les juristes théologiens qui contrôlaient l'espace intellectuel de l'exercice de la raison à l'intérieur du donné révélé. Et avec Averroès, la raison a essayé de s'émanciper, non pas totalement du donné révélé, puisque Averroès ne l'a jamais rejeté, mais il a voulu introduire des outils de réflexion, d'analyse, de conceptualisation qui étaient empruntés à la discipline philosophique aristotélicienne en particulier, et non pas au Coran. Vous voyez donc que la tension est là. Et cette tension est commune à tous les champs intellectuels qui ont été développés dans la tradition juive, chrétienne et musulmane. Et cette question a pris en Europe une extension politique et juridique tout à fait considérable à partir de la Révolution anglaise, 17e siècle, et plus encore peut-être à partir de la Révolution française, bien sûr, qui a coupé toutes les racines, justement, de tout lien avec cet exercice de la raison à l'intérieur d'un donné révélé. Alors vous voyez que le débat n'est pas ce débat qui se poursuit en France depuis la Révolution et que l'on appelle la laïcité. La laïcité, c'est une région simplement du débat. Et les origines profondes, les racines profondes du débat, elles sont toujours présentes. Et la preuve qu'elles sont toujours présentes, même dans un pays comme la France. Et vous voyez que je suis toujours dans le thème de la modernité. Mais tout ce que je dis, apparemment, à l'extérieur de l'islam, touche l'islam en son cœur. C'est ce qui s'est passé dès 632-661 dans la pensée islamique. Et voilà, vous aviez raison de commencer en disant quel islam. Si nous retournons à cet islam-là, qui a précisément posé dès le départ le problème de l'instance du spirituel, qui est transnationale et transhistorique, et l'instance du pouvoir politique, qui est nécessairement non seulement nationale, mais elle peut même être tribale et vulgairement clanique. Le problème a été posé. Et du sang a coulé.
Le problème a été posé, mais il n'a pas été résolu.
Mais qui l'a résolu dans le monde, aujourd'hui encore? C'est un problème de philosophie politique qui reste ouvert. Les solutions que nous avons apportées sont essentiellement pragmatiques, institutionnelles. On les qualifie bien sûr de juridiques parce que le droit est là. Mais il y a une discipline qui s'appelle la philosophie du droit. Les fondements philosophiques d'une loi, que cette loi soit religieuse ou qu'elle soit laïque, le philosophe pose des questions sur la légitimité d'une loi et la réception d'une loi par les citoyens auxquels elle est destinée. Et nous voyons très bien en France, où nous vivons justement l'expérience démocratique, combien de problèmes sont en train de se poser sur l'instance de légitimation. Alors, si j'avais du temps maintenant, je pourrais vous expliquer comment, dans l'exemple islamique, les sociétés musulmanes se sont progressivement éloignées de la question de la modernité intellectuelle telle que je viens de la présenter dans un cadrage historique, certes rapide, mais à mes yeux tout à fait essentiel parce qu'il est toujours actuel et en même temps extrêmement ancien.
Si la majorité des sociétés musulmanes paraissent aujourd'hui en effet bien éloignées de l'esprit de la modernité, ce n'est pas sans lien avec l'histoire récente de leur rapport au monde occidental. Je pense en particulier à la décolonisation qui, tout en visant l'émancipation des pays concernés, est loin d'avoir pleinement atteint son but. Il y a là sans doute un effort à fournir dans le sens d'une juste critique de cette raison dite moderne. Et à ce propos, je voudrais vous demander, Mme Darkoun, de revenir brièvement à une affaire qui nous concerne tous, en tant qu'elle touche à la notion sacro-sainte en Occident des droits de l'homme. Il s'agit des propos que vous avez tenus au moment de l'affaire Rushdie, dans une interview au journal Le Monde, et dans lesquels beaucoup ont cru déceler, bien à tort selon vous, une considération trop exclusive pour les droits de l'homme en islam. Quelle était en fait votre véritable intention dans cette affaire ?
Ce que je voulais réintroduire dans l'affaire Rushdie, c'est le concept des droits de Dieu, qui sont communs à la pensée juive, chrétienne et musulmane, qui toutes les trois affirment les droits de Dieu et veulent articuler les droits de l'homme aux droits de Dieu. Les droits de Dieu, c'est toute la théologie que nous appelons la théologie de l'alliance dans les trois religions. Il y a alliance de toute éternité entre le Créateur, Dieu, qui se présente dans la révélation comme le Créateur, et l'homme, qui est la créature de ce Dieu. Il y a une relation de bienfaisance, de sollicitude et d'amour de Dieu vis-à-vis des créatures. En réponse à cet acte d'amour de Dieu pour sa créature, la créature aussi est mue par un mouvement d'amour vers celui qui l'aime et qui l'élève. Et il y a là un contrat, si je puis dire, spirituel. C'est d'ailleurs un contrat. Le Coran l'appelle un contrat. C'est un contrat spirituel. L'Ifaq. Et chez les Juifs, c'est la même chose. C'est l'alliance.
Brit.
Oui, exactement. Et chez les chrétiens, le thème de l'alliance dans le christianisme est considérable. Voilà, vous voyez, c'est une base commune. Voilà pourquoi je ne démarre jamais sur un problème concernant l'islam sans commencer par clarifier la situation de cette soi-disant raison. Et malheureusement, il est très pénible de constater que dans un pays démocratique, gavé de culture, gavé d'intelligence, gavé de chercheurs, gavé de tout ce qu'on veut, je veux dire la France, on continue d'exercer d'une façon essentiellement polémique et dominatrice. C'est la domination. Et je puis faire une confession psychologique publiquement. J'ai d'Alger de 1950 à 1954, à la veille de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire dans l'Algérie coloniale. Je témoigne publiquement
que je n'ai pas ressenti dans l'Alger coloniale et l'université coloniale. L'oppression intellectuelle que je ressens aujourd'hui, après 30 ans de carrière à la Sorbonne.
Ce genre de choses ne se prouve pas, il s'éprouve.
Absolument. Là, je vous dis, c'est sur le ton d'une confession. Ça, je ne cherche pas à prouver, je crie.
Mme Darkoun, un des éléments essentiels de cette modernité à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le retour de l'individualisme. C'est l'individu tout-puissant. Or, l'individu en Occident, en France, on sait à peu près ce que c'est. En arabe, il me semble que le mot individu veut dire la moitié d'une paire. C'est pas tout à fait pareil.
Oui, oui, oui. Oui, vous avez raison de dire la moitié d'une paire, mais il faut aussi dire que l'on ne peut pas parler de l'individu sans parler de la personne. Et là aussi, c'est un point critique du fonctionnement de notre modernité. Car vous pouvez remarquer combien l'individu et l'individualisme ont pris une très forte extension dans notre vie et dans nos démocraties, et comment le concept de personne est resté essentiellement parqué, si je puis dire, chez quelques théologiens.
Et dans le domaine de la psychologie.
Et dans le domaine de la psychologie. Combien l'esprit a été divisé. Tout le problème de l'imaginaire, qui est revenu maintenant à la surface et dont on parle, mais pendant longtemps, la raison a refusé de traiter de l'imagination et de l'imaginaire. Et il y a eu de très graves conséquences sur l'esprit. Donc, là aussi, l'individualisme a pris de l'extension à cause d'une certaine pratique et conception aussi juridique des droits de l'homme. On va croire encore que j'attaque les droits de l'homme. Pas du tout. Mais il est évident que, par exemple, la sécurité sociale, telle qu'elle fonctionne, favorise le développement de l'individualisme et casse les solidarités les plus naturelles. Alors, en islam, évidemment, cet individualisme n'existe pas. Non pas parce que l'islam serait contre, parce qu'on dit toujours, c'est l'islam qui est toujours contre ou pour. Hein. Ça n'a rien d'autre. Alors que le mot insan, le mot homme, recouvre toute la notion de personne, avec tous les développements philosophiques que l'on peut connaître sur la personne dans le Coran.
Donc tous les développements totalitaires sont des déviations.
Je ne dirais pas des déviations, ce sont des mécanismes normaux dans les sociétés, parce que les sociétés obéissent à des mécanismes. Et ces mécanismes sont toujours manipulés par des acteurs sociaux. Et ces acteurs sociaux ne sont pas tous préoccupés de valeurs spirituelles, préoccupés d'aller rechercher des sources éthiques ou des sources spirituelles de leur conduite.
Il est vrai que la plupart des pays du monde dits arabo-musulmans ont davantage que les pays de l'Europe échappé, si on peut dire, à la démocratie, tout simplement. Ils se retrouvent inféodés.
C'est le résultat, justement, de la non-participation aux bienfaits de la démocratie. Parce que la démocratie a des bienfaits. Il ne s'agit pas du tout, il s'agit de l'améliorer. Ce que je dis, c'est pour l'améliorer, c'est pas du tout pour... au contraire. Et les pays musulmans, tous les pays musulmans jusqu'à présent, n'ont pas connu ce processus difficile à produire dans les sociétés, qui est le processus de démocratisation de l'ordre social. Nous ne l'avons pas connu pour des raisons historiques, encore une fois, et non pas pour des raisons qui seraient inhérentes au Coran, comme le dit notre grand maître en islamologie, Jean-Claude Barrault maintenant, ou d'autres, hein, il n'est pas le seul, il a le mérite d'expliciter des choses que beaucoup de gens pensent, et ça n'est pas du tout ça.
Alors, néanmoins, ce qu'ils n'ont pas connu, j'imagine que vous espérez qu'un jour ils le connaîtront.
Alors là, voilà, l'ouverture, c'est qu'il y a des forces. C'est une phase nouvelle que les pays musulmans, et en particulier les pays arabes, sont en train d'aborder et qui est la prise de conscience d'une critique de l'État d'abord, des responsabilités nouvelles. Et c'est important, et c'est comme ça que la démocratie est partie et a commencé en Europe. Et aussi, essayer d'approcher ce que l'on appelle aussi la société civile. Comment est-elle composée? Comment fonctionne-t-elle? Pour la première fois, on commence à poser ces questions-là. Et on les pose malheureusement dans un climat politique horrible, horrible à l'extérieur, et horrible à l'intérieur. La guerre du Golfe est une tragédie infinie du point de vue des problèmes que nous venons d'évoquer.
On ne pouvait pas.